énervé. Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Des tests PCR pour les voyageurs européens qui veulent entrer en France. C'est la nouvelle mesure qui entre en vigueur aujourd'hui sur le territoire. Les travailleurs frontaliers et les personnes qui utilisent le transport terrestre en sont exemptés. Justice. Emmanuel Macron veut adapter notre droit pour punir les auteurs de violences sexuelles sur mineurs. Le président s'est exprimé hier sur Twitter. Une consultation doit démarrer demain à la chancellerie et devra déboucher rapidement sur des propositions. Emmanuel Macron a d'ores et déjà annoncé que 2 rendez-vous de dépistage et de prévention contre ces violences seraient organisés en primaire et au collège. Leclerc est l'enseigne de grande distribution préférée des Français. C'est ce que révèle une étude menée par l'Institut Kantar. Il se classe devant Carrefour et Intermarché. En 2020, la fréquentation des supermarchés a évidemment baissé à cause de la crise sanitaire, mais les commandes en ligne ont explosé. Banque chez BNP Paribas, le conseil aux clients va devenir payant. Cette mesure déjà expérimentée va être généralisée pour compenser la baisse des taux et la vente des crédits immobiliers quasi à perte. Les conseils spécifiques sur le patrimoine ou l'épargne seront donc facturés 12 euros par mois. Dans l'actualité internationale, en Espagne, des personnalités politiques démissionnent après s'être fait vacciner trop tôt. Le chef de l'état-major de l'armée a notamment présenté sa démission hier. Il a été accusé d'avoir bénéficié d'un passe-droit pour se faire vacciner contre le coronavirus avant les résidents de maisons de retraite et le personnel de santé. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro appelle Joe Biden à tourner la page. Il entend renouer avec Washington, c'est en tout cas ce qu'il a indiqué hier. Il s'est dit prêt à ouvrir une nouvelle voie dans les relations diplomatiques qui ont été rompues entre Caracas et Washington sous la présidence de Donald Trump.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Bonjour, on commence ce flash local en vous rappelant qu'il y a ce matin à Bonnel un marché. Et bien évidemment, les commerçants vous y attendent nombreux pour découvrir des produits de qualité. Et puis on va à Bullion, juste à côté. Depuis le début de l'année, la commune fête toutes les naissances de ses concitoyens par la plantation d'un arbre fruitier avec une plaque nominative en corrélation avec le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Au-delà de l'aspect symbolique et de la joie procurée par cet événement, c'est un ensemble de bénéfices pour la commune, mais aussi pour l'environnement. L'enfance sera sensibilisé à l'importance de préserver un arbre fruitier qui lui fournira ensuite des fruits sains et sans pesticides, gratuitement et simplement, année après année. C'est un petit verger participatif qui va se constituer avec la possibilité pour tout le monde de se servir gratuitement et sainement en fruits de saison. Je vous rappelle que l'association Les Petits Écureuils à la Selle des Bordes recherche un animateur ou une animatrice auprès d'enfants de 3 à 11 ans. L'accueil périscolaire se fait le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h15 à 19h et le mercredi de 8h15 à 19h15. Le BAFA est souhaité. Contactez Caroline Cordier au 06 68 41 78 45 06 68 41 78 45 ou par mail à lespetitsecureuils@orange.fr. Et puis je vous rappelle qu'à Bonnel, suite à un cas de Covid déclaré parmi le personnel de restauration scolaire, l'agence régionale de santé a demandé que tous les cas contacts soient isolés 7 jours et présentent un test PCR négatif à leur retour. La mairie de Bonnel ne disposant plus de personnel suffisant pour assurer le service de restauration scolaire, mais également l'entretien des locaux de l'école élémentaire, eh bien a décidé de fermer l'école élémentaire et le restaurant scolaire jusqu'au jeudi 28 janvier inclus. À Blis, la médiathèque, suite à la crise sanitaire, eh bien change ses horaires et annule toutes les activités prévues jusqu'à nouvel ordre. Les nouveaux horaires sont le mercredi de 10h à midi et de 14h à 17h45, le vendredi de 15h45 à 17h45 et le samedi de 10h à midi et de 14h à 17h. Merci d'avoir suivi ce flash. Poursuite des programmes sur RVE.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport. Avec Philippe Carnu.
Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Après donc Jean-Claude Redon, le président du comité départemental olympique et sportif des Yvelines, et puis Jean-Michel Esprit, son chargé de communication, eh bien ce matin, on a le privilège et l'honneur de recevoir Jean-Pierre Mougin, le président de l'association française pour un sport sans violence et le fair play, et le vice-président du CNOSF. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour Philippe.
Merci d'avoir fait donc d'être venu dans ce studio, hein, d'être notre invité. C'est encore l'époque des vœux. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le sport et pour 2021?
On est tous très très marqués par cette pandémie qui continue. Donc ce que l'on peut souhaiter, c'est une reprise plus rapidement possible de l'activité physique et sportive. Vous savez que le sport est en pleine crise aujourd'hui, qu'il s'agisse du sport professionnel mais aussi et surtout du sport amateur. Donc nous on fait le maximum pour accompagner justement les fédérations, les clubs qui voient leur nombre de licenciés fondre comme neige au soleil. J'avais un chiffre hier, j'étais avec la fédération de karaté, 40% de baisse de licences en ce début d'année. Donc c'est catastrophique. Donc on s'attend à une année encore très difficile. Je pense que pour cours du premier semestre, à mon avis, la pandémie nous obligera effectivement toujours à aller en vitesse très faible, mais j'espère bien qu'au deuxième semestre, on reprendra de la vigueur et de l'activité et que cette crise sera derrière nous et n'aura été qu'un mauvais souvenir. Mais voilà, aujourd'hui, c'est très difficile de faire des perspectives par rapport aux informations qui circulent des uns et des autres.
Ouais. Et puis ça va être une des priorités du CNOSF dans les prochains mois, c'est effectivement d'accompagner, dire cette future crise du sport français, parce que quoi qu'il arrive, ça va laisser des conséquences.
Absolument, même si les mesures gouvernementales ont finalement aidé un certain nombre de structures à survivre, il y a le plan, le PGE qui permet justement de prêter de l'argent aux structures qui en ont le plus besoin, il y a le rapport de charges, il y a un certain nombre d'accompagnements, les mesures d'urgence, etc. Donc le CNOSF a pris sa part également en aidant les clubs les plus en difficulté dans le cadre de l'opération Soutien ton club, et donc voilà, on fait le maximum pour accompagner, mais il en restera des traces. Et de toute façon, le monde sportif est quand même fort et souhaite survivre à cette crise difficile. Et j'espère qu'on sera renforcé après et qu'on repartira de plus belle sans pour autant rattraper le temps perdu.
Ouais. Il y a des sports qui peuvent carrément disparaître.
C'est vrai que les sports d'équipe aujourd'hui souffrent beaucoup. Les sports individuels aussi, on a vu comment les sports de combat étaient marqués parce que les mesures sanitaires leur permettaient pas justement de reprendre l'entraînement. On a seulement sauvé l'entraînement des sportifs professionnels qui préparent en particulier les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc ceux-là sont préservés, peuvent s'entraîner dans des conditions particulières. On a des dérogations par rapport au couvre-feu. On fait le maximum pour ces sportifs-là, mais les sportifs amateurs aujourd'hui, malheureusement, souffrent énormément.
Ouais. Et puis il y a certains sportifs professionnels qui préparent les jeux. Alors on a dit cette année que certains journaux, certains médias ont déjà annoncé que Tokyo pourrait donc renoncer aux jeux de 2020-2021 contre donc une participation en 2032. Ce sont des infos fondées pour vous?
Écoutez, le président du CNOSF, pour lequel je suis très très proche, a eu une conférence il y a moins de deux jours avec le président du CIO. Le message est clair, les Jeux auront lieu, quoi qu'il arrive.
Tant mieux, parce que c'est inconcevable quand même.
Il n'y a pas de plan B imaginable, pas de plan C non plus, ça a été évoqué. Les Jeux auront lieu, avec certainement des contraintes qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui, mais peut-être qu'en nombre de spectateurs, il y aura des jauges à respecter, peut-être que les sportifs auront besoin d'être vaccinés, il y aura des mesures particulières. C'est clair que ce ne seront pas des Jeux habituels, comme ceux qu'on a connus récemment, mais le principal, c'est qu'ils aient lieu, et que les sportifs qui s'entraînent puissent être à Tokyo et puis faire honneur chacun à leur pays respectif.
Oui, parce que eux, c'est 4 ans d'efforts, c'est 4 ans de préparation, et puis pour certains, c'est le dernier rendez-vous, donc ce serait quand même dommage de rater ces Jeux. Quoi.
Et puis, il ne faut pas oublier également que Tokyo 2020, qui se déroulera donc en 2021, c'est juste avant Paris 2024.
Oui.
Donc il y a toute une dynamique qui s'est mise en place, et c'est vrai que si ces Jeux n'avaient pas lieu, mais je n'y crois pas du tout, ces Jeux ont lieu, s'ils étaient un petit peu, s'ils devaient évoluer en termes de format, ce serait moins grave que s'il devait être annulé.
Oui, parce que ça mettrait une pression encore plus forte sur Paris 2024.
Absolument.
Alors Jean-Pierre, on va remonter un peu votre itinéraire. Comment le sport est entré dans votre vie? Et surtout, je crois savoir la moto.
Absolument. Écoutez, depuis le plus jeune âge, donc je me suis mis en motocross parce que j'avais des amis, voisins qui roulaient en motocross en Franche-Comté. C'était du côté de Sochaux-Montbéliard, autre nom bien connu pour le football.
Oui.
Et donc j'allais faire la mécanique avec ces amis-là. Et puis progressivement, j'ai dit il faut que j'y aille. Et donc à l'époque, mes parents ne voulaient absolument pas que je fasse du motocross, mais ma grand-mère aimait beaucoup le motocross et donc elle m'a donné un petit billet pour aller acheter une moto. C'était une Peugeot à l'époque, comme par hasard, sur Pays de Montbéliard. Et donc, cette 350 Peugeot, je l'ai aménagée, je l'ai améliorée, etc. Et je me suis présenté aux qualifications du championnat de France à Besançon en 1967. Et j'ai été qualifié pour le championnat de France. Et ensuite, c'est une carrière qui est partie. J'ai été pilote officiel de la marque Maico, la marque allemande. Ensuite, Husqvarna. J'ai terminé ma carrière sur une KTM, donc que des motos européennes, et j'ai été champion de France en 1970.
Ouais, donc ça reste des super souvenirs, hein. C'est l'école de la vie, c'est voilà.
Super souvenirs, ouais. Vraiment, c'est des années extraordinaires, et en parallèle, donc j'ai pu créer un club, le motoclub de Villars, très connu, qui a organisé de nombreux championnats du monde, y compris le motocross des nations en 1988, qui était ma dernière année à la tête de ce motoclub avec 30 000 spectateurs, la victoire des États-Unis devant la France, avec un certain Jean-Michel Bail à l'époque, oui. Jacques Vimont, etc. Donc, on a, et puis Yannick Kervella, voilà, l'équipe de France, et donc, voilà, très heureux également d'avoir pu organiser ces championnats du monde de motocross, du trial, de l'enduro. Voilà, ça a été une expérience également extraordinaire de présider ce motoclub de Villars qui continue aujourd'hui d'exister.
Et vous avez encore donc des relations avec le sport moto, parce que, bon, vos fonctions vous prennent beaucoup de temps, puis ça vous oblige peut-être à être un peu au-dessus de la mêlée, quoi.
Alors justement, donc cette carrière de motocross m'a amené à la présidence de la commission motocross de la Fédération française de moto en 1980, et ensuite je suis devenu président de cette fédération en 1989, et donc j'y suis resté jusqu'en 2008, donc pratiquement 20 ans à la tête de cette fédération. Donc j'ai gardé des contacts bien sûr extrêmement importants. Mon successeur Jacques Boll donc est resté pendant 3 mandats, il vient de quitter la fédération, et c'est Sébastien Poirier qui était directeur général et que j'avais moi-même recruté, qui a pris la présidence de la fédération, donc un jeune président dynamique, compétent, qui je l'espère va continuer de promouvoir la moto et la fédération française de moto. Donc j'ai toujours bien sûr des relations extrêmement proches et je suis ainsi invité à tous les comités directeurs de cette fédération.
Et vous savez qu'on relate souvent ici donc le motocross de Saint-Chéron, hein. C'est dans l'Essonne, c'est pas très loin d'ici.
Ah ben effectivement, je connais bien Saint-Chéron pour y avoir été en tant que délégué et président de la fédération, et l'ancien président Noël Renoir, voilà, qui a pris idée aux destinées de ce club, l'a fait monter très très haut, avec des championnats de France 125, Sidecar Cross, et donc très heureux de savoir que Saint-Chéron continue d'exister.
Bon, il y a les motocrossman et puis il y a la moto sur route, c'est deux mondes à part. Vous avez quand même réussi à travailler ensemble, à vous connaître, parce que c'est ça la difficulté quand même, hein. C'est alors, deux calendriers différents, c'est des mondes différents.
Alors la Fédération française de moto gère l'ensemble des activités moto, quelles qu'elles soient, le trial, l'enduro, la vitesse, le motocross, etc., voire le speedway, les montées impossibles, etc. Et donc ce monde-là vit bien ensemble, et donc nous travaillons en étroite relation avec la Fédération française de sport automobile, puisque nous utilisons aussi les mêmes circuits, s'agissant de courses de vitesse. Et donc nous avons également monté, et j'ai moi-même monté un syndicat de défense des intérêts des circuits. Il s'agit du GNKCPA, Groupement National des Circuits Automobiles, Centre d'essai industriel et professions associées, qui compte 80 membres, et tous les circuits français sont membres de cette association. Et donc nous défendons et nous aidons les circuits à survivre également dans ces moments dans ces moments difficiles.
Oui, parce que les motos sur route aussi connaissent quelques problèmes. Bon, on connaît les 24 heures du Mans, on connaît le bol d'or, hein, mais ça pose aussi problème pour...
Mais effectivement, quand le bol d'or, les 24 heures du Mans ont lieu à huis clos, c'est pas faire finalement l'état d'esprit qu'on a l'habitude d'avoir avec les 80 000 ou 100 000 spectateurs qui sont là au bord de la piste pour encourager les pilotes. Donc cette année, ça a eu lieu à des conditions très très difficiles. J'espère que ça reprendra. Voilà, mais ces épreuves doivent exister, parce que la France est très bien placée en championnat du monde d'endurance, que s'agisse des 24 heures du Mans ou du bol d'or. C'est ce qui fait un peu notre référence au niveau mondial. Nous avons les meilleurs pilotes du monde, et donc j'espère que finalement on pourra repartir très très vite avec ces belles épreuves.
Et pour revenir sur le motocross, c'est un sport très difficile, très exigeant physiquement. Ça va, ça vous a pas laissé
Écoutez, je n'ai jamais eu aucune blessure grave, à part des entorses nombreuses, etc. Et souvent le lundi, j'allais voir quelqu'un qui remettait tout ça en place. Non, je suis en pleine forme, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Jamais aucune fracture, contrairement à beaucoup de mes nombreux collègues, et puis même certains sont malheureusement décédés dans les compétitions. Voilà, c'est toujours dramatique, mais le sport, c'est ça. Il y a des bons moments, puis il y a des moments plus difficiles.
Ça vous aurait plu de faire le Dakar, par exemple, parce que c'est une troisième spécialité. Il y a la route, il y a le motocross, et puis le trial, et puis il y a donc
c'est vrai,
le raid.
Ouais, que quand j'ai arrêté ma carrière, le Dakar venait de démarrer. Ça m'aurait tenté, mais j'avais pas finalement le profil pour faire ce Dakar. Par contre, j'y suis allé en tant que président de la Fédération française de moto à l'époque avec Thierry Sabine pour le suivre, effectivement. À l'époque, il était encore en Afrique, avant de passer en Amérique du Sud et maintenant au Moyen-Orient. Ça m'aurait plu. J'ai beaucoup de mes collègues qui faisaient du motocross qui ont fait le Dakar. Voilà, donc malheureusement, c'est une épreuve que je n'ai pas eu le loisir et le plaisir de faire.
En tout cas, ce qui nous permet d'avoir une pensée pour Hubert Auriol, hein, qui a été un énorme champion.
Que j'ai bien connu, ouais, Hubert ouais. Auriol, tout ouais. à fait, qui a gagné le Dakar en moto, qu'il a gagné en voiture. Et que j'ai encore vu récemment, mais il avait voilà, il souffrait d'une maladie grave et voilà, ça m'a fait de la peine de le revoir dans cet état et malheureusement ses jours étaient comptés.
Mmh. Alors comment on en arrive après, quand on fait un sport qui est pas un sport olympique, à pénétrer au CNOSF, comment on y arrive?
Alors à l'époque où j'ai été élu au CNOSF, c'était en 1983, vous voyez, oui. Ça fait bientôt 27 ans.
Il n'y a eu aucun problème quand on vient de la moto, on est accepté par ses pairs des sports olympiques?
Ben écoutez, je vais vous dire, il y a 8 postes qui à l'époque étaient réservés aux fédérations olympiques. Parce
d'accord,
que comme
ça,
son nom l'indique, CNOSF, oui. Comité National Olympique et Sportif Français.
Ouais, ça, c'est bien.
C'est ce qui fait un peu la force du mouvement sportif français. On est tous ensemble. Mm-hmm. Les fédérations olympiques, fédérations olympiques, mm-hmm. fédérations affinitaires, multisports, et puis les fédérations scolaires universitaires. Voilà, tout ça est un monde très fort. Et donc, j'ai été élu sans aucun problème à la présidence, enfin, comme représentant du sport motocycliste au sein du conseil d'administration du CNOSF. Je suis devenu trésorier adjoint. Je suis devenu également, à l'élection du président Masseglia en 2009, secrétaire général, donc le numéro 2 du sport français, en étant issu d'une fédération olympique. C'est plutôt rare, très rare même. Et voilà, donc j'ai été très heureux d'assumer ce rôle. Et aujourd'hui, je suis vice-président en charge de l'emploi, de la formation, mais également de la recherche au service de la performance sportive. Donc je suis resté toujours dans le monde de la performance sportive et je suis très heureux. Malheureusement, ce parcours va s'arrêter au mois de juin prochain, le 29 juin prochain. Le CNOSF procédera à son assemblée générale élective comme tous les 4 ans. Et là, un certain nombre de personnes, dont le président Denis Masseglia, moi-même, le trésorier, ce matin par la limite d'âge qui était fixée à 70 ans. Mmh. Et donc, nous devons quitter cette belle
d'accord.
maison.
Donc, vous ne serez plus en fonction dans quelques mois.
Voilà.
D'accord,
et il y aura donc un renouveau complet du CNOSF, du conseil d'administration et du président. Et il faut savoir que les fédérations ont commencé leurs élections qui devront se terminer fin avril. Et à ce jour, 50% des présidents de fédérations olympiques ont changé. Donc, il y aura vraiment un grand renouveau dans le sport olympique français. Et donc, attendons de savoir qui présidera le 29 juin aux nouvelles, aux destinées du comité olympique et sportif français.
Oui, c'est vrai que c'est le renouvellement des présidents de fédération, on le voit, donc pour le vélo, le foot bientôt, le tennis aussi, c'est vrai qu'on renouvelle. Bon, vous allez quand même rester actif.
Ben écoutez, j'espère, je suis...
Peut-être Paris 2024.
Alors, peut-être Paris 2024, pourquoi pas. Peut-être que l'expérience de personnes, même si elles ont plus de 70 ans, il reste la compétence.
Oui, voilà,
Et peut-être que j'aurai des missions à assumer. En tout cas, je garde la présidence de l'Association française pour un sport sans violence.
Oui, on va
pour
en parler.
Fairplay, qui est un membre associé du CNOSF depuis 2020. Donc, nous avons frappé à la porte et nous avons été admis comme faisant partie de la maison CNOSF. Donc, à ce titre-là, je garderai bien sûr des contacts privilégiés, compte tenu du contexte actuel que vous connaissez, sport sans violence, etc., et tous les scandales qui viennent d'apparaître au grand jour, en termes de violence, en particulier de violence sexuelle. Ces sujets-là nous préoccupent, et donc, ça permettra d'avoir un lien important avec le CNOSF. Et puis, je suis aussi secrétaire général du Conseil social du monde sportif. C'est une structure, un syndicat des employeurs du sport, le plus gros, qui représente 97% des salariés du sport. Et donc, à ce titre-là, secrétaire général, je continuerai peut-être ce poste-là pour s'occuper des 60 000 salariés du monde sportif aujourd'hui en France.
Oui, parce que le monde sportif emploie du monde. Et justement, au CNOSF, pour le grand public, vous êtes combien de salariés?
Alors, il y a 80 salariés pour l'instant. Donc c'est un comité olympique qui est moins important que ne peut l'être le CONI italien, le comité olympique national italien, mais plus important que d'autres. Voilà, ça nous permet d'assumer pleinement nos missions et de s'appuyer sur des structures extérieures en cas d'études particulières ou de soucis particuliers. Et nous venons d'ailleurs de créer l'année passée notre chaîne Sport en France,
qui est
une chaîne qui marche très très bien, qui a une audience remarquable et pour certaines disciplines plus forte que des concurrents que je ne citerai pas ici, mais voilà, qui est en train de faire sa place aujourd'hui.
Oui, c'est une très bonne idée. Hein. C'est une chaîne qui se trouve sur le web, hein, sur le satellite, entre autres, hein, puis sur certaines chaînes satellites.
Voilà, absolument. Accessible gratuitement à tout un chacun.
Voilà, et puis on connaît quelques confrères qui travaillent comme Patrick Chêne, par exemple.
Par exemple.
Hein, qui s'évite de temps en temps.
Ça a été un grand acteur de ce, de ce rapprochement entre le CNOSF et cette chaîne Sport en France, avec Média 365, hein, qui à l'époque était présidé par Patrick Chêne. Ouais. Et donc, nous travaillons main dans la main. Nous avons de bons résultats. Notre objectif n'est pas de parler du football.
Il a cette télévision. Non, non, non. On ne parle pas justement.
Tous les autres sports. Oui. Et donc, chaque fédération a droit chaque année à ses reportages pour montrer des disciplines très jolies, mais qu'on ne voit pas beaucoup à l'écran.
Alors, j'avais lu aussi que peut-être une radio.
Alors, effectivement, on avait candidaté pour une fréquence qui restait libre. Malheureusement, cette fréquence nous a pas été attribuée. C'est dommage.
Ouais, c'est dommage.
Voilà, on a un partenariat fort avec RMC, hein, comme vous le savez.
Oui, puis Radio France aussi.
Voilà, Radio France aussi. Ouais. Bon, ce canal n'a pas été dédié au sport. C'est un peu dommage pour nous.
Oui, oui.
Mais bon, avec la télévision et les autres partenariats qu'on a avec les chaînes radio, je pense que nous sommes armés pour faire parler de nous et du sport.
Alors, moi, je le sais, mais on va quand même rappeler les priorités du CNOSF par rapport au sport français, hein, pour le grand public.
Ben, les priorités, c'est bien sûr les résultats, les résultats sportifs au travers des Jeux Olympiques, puisque, comme vous le savez, ou je le dis pour les auditeurs qui ne le savent pas, le Comité National Olympique, comme tous les autres comités nationaux olympiques, a deux missions. La première, c'est de représenter le CIO sur le territoire français et les valeurs du Comité international olympique. Excellence, amitié, respect, et on a même ajouté fair play dans ces trois piliers, donc quatre piliers avec le fair play qui est important. On y reviendra peut-être tout à l'heure.
Oui, oui.
Et la deuxième mission, c'est de représenter l'ensemble du monde sportif français au niveau du pouvoir public français. C'est de défendre les intérêts du sport. Et donc, nous sommes aussi habilités, les seules habilités en France à candidater pour les Jeux olympiques. C'est comme ça que la France a été candidate. C'est le Comité olympique qui a présenté la candidature de la France avec la ville de Paris, donc pour être élue en 2017 comme ville hôte des Jeux olympiques de Paris 2024.
Oui, on en parlait hors antenne, on était à Lima, ça a de super beaux souvenirs.
Absolument, Lima, septembre 2017, quelle belle journée magnifique, même si on savait déjà avant que Paris aurait les Jeux en 2024 et Los Angeles en 2028, puisqu'un accord avait été trouvé dans le consensus le plus total d'ailleurs entre Los Angeles, Paris et le CIO et la ville de Paris. Voilà, donc nous étions très très heureux d'être là-bas. Et donc notre objectif aussi, notre mission, c'est de désigner les équipes qui vont participer aux Jeux Olympiques. C'est nous-mêmes qui décidons quels sont les sportifs qui participeront aux JO, sur proposition bien sûr des fédérations. Et nous avons une commission justement de labellisation des sportifs habilités à se rendre aux Jeux Olympiques.
Et puis j'allais dire, enfin il les fallait ces Jeux en France, un prétend échec.
Bah écoutez, 1904, 1924, ce sera un beau centenaire, et en plus la patrie de Pierre de Coubertin, donc il y a un certain nombre de valeurs, et donc ces Jeux, ce seront l'occasion justement de laisser un héritage fort de ces Jeux sur la France, sur l'ensemble du public français, et de faire en sorte que nous passions d'une nation de sportifs à une nation sportive, comme l'a dit souvent notre président Denis Masseglia. Et donc l'héritage est un dossier très très important sur lequel le COJO, Comité d'organisation des JO, travaille dès aujourd'hui, pour justement faire en sorte qu'il reste quelque chose avec les labellisations des territoires terres de jeux, Génération 2024 au niveau scolaire en particulier, beaucoup d'initiatives, Club Paris 2024 qui est en train de se mettre en place. Et tout ça fait que finalement il en restera quelque chose, et que ce seront des beaux jeux qui se dérouleront à Paris, comme vous le savez, sur un certain nombre de stades pour le football, à Marseille pour tout ce qui est voile. Et donc aujourd'hui, voilà, les sites sont définis, et le budget sera maîtrisé. C'était un enjeu fort souhaité par le CIO, qu'enfin on maîtrise le budget des jeux, qui est de 3,8 milliards d'euros, et ce budget sera respecté, je peux vous le garantir.
Et nous, dans notre département, on va gâter là sur les Yvelines, hein, pas très loin, Saint-Quentin, le golf, le vélo, le VTT, le bicross, les sports équestres, voilà.
Absolument.
Et les profs sur route de vélo aussi qui partiront de là.
Absolument. Ah, et ils seront pas loin du centre, du centre de Paris. L'objectif, c'est d'avoir dans un rayon de 30 km maximum l'ensemble des disciplines autour de Paris, ce qui sera le cas. Donc, avec, bien sûr, le pôle central qui sera le Stade de France, avec, voilà, beaucoup de, le village des athlètes également, et le village média qui sera également à proximité du Stade de France.
Bien sûr. Et puis, donc, vos activités, vous les démultipliez à travers les CROSS et puis les CDOS aussi, hein.
Alors, effectivement, on a une délégation territoriale forte. Nous avons pour chacune des régions de France un comité régional olympique et sportif, et pour chaque département un comité départemental olympique et sportif, dont l'objectif également est de décliner les orientations stratégiques du comité olympique sur le territoire, mais aussi de fédérer localement l'ensemble du mouvement sportif avec les ligues régionales des fédérations et les comités départementaux des fédérations, de s'assurer d'une cohésion en relation avec la politique territoriale et dans le cadre aujourd'hui des conférences régionales du sport qui sont en train de se mettre en place, une déclinaison de l'Agence nationale du sport dans laquelle le mouvement sportif a toute sa place, comme l'État, comme les mouvements sportifs locaux, et puis comme le monde économique également, qui aujourd'hui fait partie de cette grande famille du sport.
Bah oui, il faut harmoniser tout ça, quoi.
Absolument.
Voilà. Allez, la pub, la musique, et puis on poursuit cette émission du dimanche 24 janvier avec Jean-Pierre Mougin, donc vice-président du CNOSF, et puis président de l'Association française pour un sport sans violence et le fair-play. On y va.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb, Loi Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr.
La Bassienne de Menuiserie, c'est votre spécialiste en menuiserie reconnu au Grenelle de l'environnement. Dans les Yvelines, à votre service depuis 2007. Venez vite en magasin découvrir nos produits. Fenêtres, portes, volets, stores, portails, portes de garage. Et même des garde-corps, des clôtures, des verrières d'atelier et des fenêtres de toit, entre autres. Tous nos produits sont réalisés sur mesure et fabriqués en France. Nous proposons également des prestations d'isolation sous les combles et par l'extérieur. Les devis sont toujours gratuits. N'hésitez pas à nous demander le vôtre. Toute notre équipe sera ravie de vous accueillir, de vous conseiller et de vous accompagner dans vos projets de rénovation. À Bassienne de Menuiserie, showroom au 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
L'amour est encore super, et on efface les douleurs d'hier. Sans toi je n'aurais jamais pleuré autant de joie pour personne. Le canon qui, de ses soupirotis, refuse de mes amours engloutis. Mon cœur d'éponge à la dérive, les marées me font revenir. Je reste avec les étoiles de mer, les oiseaux des terres amères, et mon cœur qui se perd.
oiseau.
Région avec RVE.
Voilà, cette émission, vous pourrez naturellement la retrouver en podcast. Alors, bon, vous nous avez rassuré, Jean-Pierre, hein, concernant donc la probable tenue des Jeux à Tokyo. Quand même, faut se rappeler que seul pendant la guerre, les Jeux n'avaient pas pu avoir lieu. Et déjà, Tokyo, en 1940, était concerné par les Jeux d'été. Ils n'avaient pas pu les organiser, tout comme Londres en 1944. Voilà. Et puis même, pour l'été, c'était aussi Berlin en 1916, on s'en rappelle. Et pour les Jeux d'hiver, ben, on se rappelle que même Sapporo, en 1940, n'avait pas pu organiser les Jeux d'hiver, et puis Cortina d'Ampezzo en 44. Ils sont vraiment maudits quand même, les Japonais, mais enfin, là, ça va le faire. Hein.
Ça va le faire, j'espère en tout cas, ils le méritent.
Ouais, ouais. Voilà. Alors, je voudrais aussi, avant qu'on aborde la suite de cette émission, revenir. Vous avez été un des responsables des fameux autodromes franciliens, notamment celui de Montlhéry, hein, qui s'est battu pour son maintien, pour que des activités y subsistent.
Absolument. Ouais. Donc j'étais à l'époque directeur de la qualité chez PSA Peugeot Citroën, et donc il y avait un accord entre Renault et PSA pour dire que le directeur général du site de Montlhéry, qui s'appelle l'UTAC, hein, l'Union Technique Automobile et du Cycle, puisse revenir à un cadre de PSA. Donc j'ai été désigné pour remplacer le prédécesseur, donc qui était aussi d'ailleurs un PSA. Et donc pour prendre les destinées de ce centre technique très pointu, puisque c'est le seul centre qui est à même d'homologuer les véhicules pour pouvoir rouler sur la route, donc les véhicules de tous les constructeurs, l'homologation européenne, mais qui a aussi la particularité, comme cela vient d'être dit, de disposer d'un autodrome qui avait été construit en 1923.
Et quel autodrome, hein, prestigieux, Montlhéry.
1923, hein, voilà, par un architecte qui s'appelait Monsieur Jamin, et qui avait tracé justement le profil très particulier de cet anneau de Montlhéry, qui faisait que, voilà, quand vous étiez en haut de l'anneau, ça faisait 180 km/h, vous rouliez, comme on disait, volant libre, et vous inscriviez dans la trajectoire tout en haut de l'anneau, à un mètre du bord de l'anneau, qui n'avait pas de barrière de sécurité à l'époque. Et donc, certains pilotes se sont retrouvés de l'autre côté de l'anneau. Et on chutait, ça fait peut-être, je sais pas, 25 mètres ou 30 mètres. Certains se sont tués d'ailleurs. Certains Suisses, je crois que ça s'appelait Monsieur Christophe Musy, si mes souvenirs sont bons. Donc nous avons eu ces drames. Mais l'anneau est resté là. L'anneau est toujours en place. Il se dégrade parce que c'est un anneau qui est fait de béton, qui est posé sur des poutrelles. Il y a, je sais pas combien, de dizaines de milliers de poutrelles qui supportent cet anneau. Et donc, il y a une couche de béton très fin, de 10 centimètres. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas travailler. On peut pas recouvrir de macadam, par exemple, ou de bitume. Donc, on ne peut que traiter la surface. Et on a essayé différents produits pour justement faire en sorte qu'elle ne se gratte pas, que le ciment ne s'en aille pas. Ça reste un beau jouet, vraiment quelque chose de magnifique, mais qui ne peut pas être utilisé comme il était il y a une centaine d'années. Voilà, et donc d'ailleurs le président qui m'a succédé de Montlhéry aimerait que dans le cadre des Jeux de 2024, eh bien on puisse aussi faire un petit clin d'œil à cet anneau qui a organisé les Grands Prix de France, de l'Automobile de France, etc. Dans les années 1924, et donc voilà, ce serait un beau clin d'œil également à Montlhéry. Donc on est sur ce dossier avec la personne qui m'a succédé sur le circuit de Montlhéry.
Et qu'est-ce qu'on y fait alors aujourd'hui à Montlhéry?
Alors on y fait des essais d'homologation dans deux grands domaines, le domaine de l'environnement, c'est-à-dire s'assurer que les véhicules respectent les normes anti-pollution, en particulier les normes européennes.
Ouais.
Et puis également, on y fait des essais de choc pour s'assurer qu'au niveau de la sécurité routière, finalement, les véhicules qui sont construits et mis en circulation aujourd'hui respectent un certain nombre de règles. Donc, on a un mur dans lequel on vient casser les voitures.
Ouais, voilà, on vient,
avec,
ouais.
Dans des conditions très particulières d'une norme européenne également qui fait que à 50 km/h, ben, on s'assure que finalement, l'habitacle n'est pas déformé, etc., que les ceintures, que les airbags se déclenchent bien, que les ceintures jouent leur effet et que finalement, on peut rester en vie même à un choc aussi violent. Voilà. Mmh. Donc, c'est des essais très, très importants et qui font que les constructeurs ont beaucoup évolué dans la technologie et la conception de leurs voitures pour qu'elles puissent justement respecter à certains chocs.
Et les nuisances sonores, ça n'aurait pas dérangé les habitants?
Pour l'instant,
à côté de Montlhéry, parce qu'on sait qu'il y a eu des constructions. Hein.
Pour l'instant, il n'y a jamais eu de problème. Donc, les essais industriels eux-mêmes prennent très peu de place. Hein. Effectivement, il y a un peu d'essais sur l'anneau, des essais de vitesse. Le routier, il est un petit peu derrière. Le circuit routier est un peu à l'arrière, donc ne gêne pas. Par contre, lorsqu'il y a des manifestations, des rassemblements de voitures anciennes, ça peut faire un peu de bruit. Voilà, on n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant et j'espère que ça restera
jamais
ainsi.
Plainte, quoi.
Ce serait dommage qu'on doive finalement limiter l'activité sur ces circuits.
Bon, Jean-Pierre, on revient au CNOSF. On parle de la loi sport et la loi donc sport et société.
Absolument, c'est un dossier qui est actuellement en cours. C'est un gros dossier puisqu'il y a un certain nombre de principes qu'on souhaite intégrer dans cette loi. Ce serait une loi très simple, ce serait une modification de l'ancienne loi sur le sport et sur un certain nombre de paragraphes et en particulier sur le problème de la gouvernance.
Oui.
Hein, vous savez qu'on a beaucoup parlé de la gouvernance, de l'élection des présidents de fédération, etc., etc. La parité également, qui est un sujet important. Donc cette loi souhaite préciser justement les conditions de la parité. Est-ce qu'on va vers les 50% des instances dirigeantes des fédérations, des instances également décentralisées, hein, les comités départementaux, les comités régionaux, qu'il s'agisse des ligues, des fédérations ou même du mouvement sportif. On s'oriente vers un 50%, sauf que pour les fédérations qui ont moins de 25% d'un genre, hein, ou féminin ou masculin, il faut savoir qu'il y a des fédérations qui n'ont que 2 ou 3% de femmes, mais il y a des fédérations qui ont 95% de femmes, que ça soit le Stirling Bâton, etc.
Oui, ou en GRS, ou en gymnastique.
La problématique est inverse, c'est comment on fait pour 50% d'hommes au sein de ces structures. Donc voilà, on s'oriente vers un 50% avec des délais qui vont être accepté, je l'espère en tout cas, pour se mettre en cohérence avec ce souci qui me paraît légitime, mais il ne faut pas y aller directement aussi vite que ça. Donc voilà, je pense que la proposition qu'on est en train de faire aux parlementaires qui suivent ce dossier devrait satisfaire les fédérations. Et puis également la parité qui est le mode d'élection des présidents et du conseil d'administration. Vous savez que même le président Macron avait dit il faudrait arriver à un système totalement démocratique où c'est l'ensemble des clubs qui élisent le président et le conseil d'administration. Donc on s'oriente vers quelque chose qui pourrait être 50% des clubs doivent avoir finalement le pouvoir votatif qui permet d'élire un président et un conseil d'administration légitime. Voilà, donc toutes ces propositions-là ont été travaillées par des groupes de travail du comité olympique ces derniers jours. Et on a un congrès ce lundi après-midi au CNOSF pour justement faire valider les propositions du comité olympique qui, on l'espère, derrière, seront entérinées par les parlementaires qui ont accepté que le comité olympique donc organise cette consultation interne pour pouvoir valider définitivement le projet de loi qui sera soumis à l'Assemblée nationale dans les semaines qui suivent.
Oui, donc pour le printemps, ça peut rentrer en ligne de compte.
L'objectif, enfin, c'est le mois de mars, puisque les fenêtres parlementaires sont très limitées dans ce monde assez difficile aujourd'hui de beaucoup de projets également gouvernementaux. Donc il faut trouver la juste fenêtre pour passer ce projet de loi, enfin cette proposition de loi en fait, dans le cadre des débats parlementaires, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
Et ça va apporter quoi de plus en plus du reste.
Ça va apporter une certaine transparence.
Oui,
plus grande transparence. Voilà, puisque certains peuvent avoir des doutes, parce que les gens qui critiquent la légitimité du mouvement sportif et des présidents ne savent pas ce qui se passe finalement. J'ai pas honte de le dire. Ce qui se passe sur le terrain finalement, si on n'avait pas ce tissu associatif, ce serait dramatique. Parce que le sport, c'est
ça marche comme ça dans le sport français.
Le sport, c'est un outil important pour un enjeu sociétal, un enjeu de santé également, dont on n'a pas trop parlé, pas assez parlé dans le cadre de cette crise, cette pandémie de la Covid-19. Voilà, le sport fait beaucoup. Le sport, ça devrait être reconnu comme cause d'intérêt national. C'est quelque chose de formidable. Et voilà, donc si les parlementaires ou certains qui mettent en cause l'intégrité du mouvement sportif aller sur le terrain peut-être plus qu'aujourd'hui pour voir ce qui se passe, je pense qu'ils seraient surpris par la qualité justement des travaux qui sont menés par les 160 000 clubs fédérés aujourd'hui. C'est énorme. Voilà, c'est 15 millions de licenciés, c'est 3 millions et demi de bénévoles. Comment pourrait-on faire sans cette partie-là? Et le club, c'est vraiment le lien social par excellence. C'est là qu'on se forme, c'est une école de la vie. Et donc voilà, l'objectif, c'est finalement qu'on défende nos clubs, le mouvement sportif et les sportifs eux-mêmes.
Alors, il y a eu vos activités au sein de la moto, il y a vos activités au sein du CNOSF, et puis il y a les fair-play. Comment vous rentrez dans le comité des fair-play? Comment votre arrivée se fait?
Alors, malheureusement, mon prédécesseur est décédé il y a quelques années.
On l'a vu à ce micro, hein, c'était Albert Bégard, c'est ça. Bégard, ouais, et puis on a vu aussi, on fait un petit coucou à André Catlin, qui a été le premier président de fair-play.
Qui est toujours là et qu'on voit régulièrement. Ouais. Et donc, Albert Bégard est décédé, mais avant de décéder, un an avant, il était venu me voir en disant, écoute, voilà, je pense que ça peut être toi. Ça ne peut être que toi, la personne qui va me succéder, parce que j'étais déjà vice-président du CNOSF, donc bien intégré dans la maison. Et voilà, donc j'ai accepté le défi qu'il m'a fait relever. J'ai été élu sans aucun souci à la présidence de cette association. Et donc aujourd'hui, j'essaie de développer, de faire vivre et de faire parler de cette association qui a deux grosses organisations par an. La première, c'est un rassemblement national sur un thème particulier. En 2019, c'était le sport au service de la paix, dans le cadre justement des Jeux Olympiques, avec la présence de Guy Dru, de l'UNESCO, de Thierry Rey, qui représentait le COJO, etc. Beaucoup de personnalités de haut niveau qui ont parlé justement de Pyeongchang et de cette fameuse trêve olympique, qui était votée par l'ONU avec le CIO chaque année avant les Jeux Olympiques. Et puis le deuxième objectif, c'est de participer, d'organiser ce qu'on appelle les Iris du sport. C'est une soirée, plutôt une matinée.
C'est un plaisir chaque année. Hein.
Voilà, où on honore des sportifs, des dirigeants, des arbitres, des journalistes qui ont eu une carrière tout à fait remarquable en termes de fair play. Et donc nous avons des grands noms et nous avons des prix prestigieux de personnes qui sont encore en vie. Certaines nous ont quittés, pour ne citer que celles qui sont encore en vie, il y a le prix Alain Calma, il y a le prix Patrice Martin,
Daniel Costantini,
etc. Donc on a vraiment beaucoup de
Joe Mazo et Aimé Jacquet, voilà.
Mazo, qui est toujours là, effectivement, et qui vient régulièrement, et on honore chaque année des sportifs emblématiques, et voilà. C'est ça notre objectif, et puis également, c'est de rayonner largement, et le forum que nous avons organisé en 2020 était sur un sujet totalement d'actualité, c'était sur la violence et le supporterisme, plutôt dans les stades, en particulier le football. On a parlé aussi des discriminations, dont on parle beaucoup, du sexisme, du racisme, l'homophobie, également le handicap. Et puis également une table ronde qui a été très très suivie, c'est le communautarisme et la radicalisation, qui est un sujet extrêmement sensible aujourd'hui, qui pose des problèmes à nos structures, qui sont pas toujours bien armées pour gérer ce genre de situation lorsqu'elles se présentent. Et donc nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un remarquable, le préfet Christian Gravel, qui est secrétaire général donc du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui a fait une prestation remarquable. Voilà, donc nous avons eu 200 participants à ce colloque qui était en virtuel, malheureusement, nous ne pouvions pas faire autrement, mais des belles retombées, et donc cette année, ce forum sera sur le thème de l'arbitrage, qui est aussi un autre
l'arbitrage, sensible. Hein. En plus avec la vidéo, maintenant.
Donc vous voyez, beaucoup d'activités pour cette association française pour un sport sans violence et pour le fair play, c'est toujours un peu difficile à dire. Mais voilà, j'espère, lorsque j'aurai quitté mes fonctions au CNOSF, consacrer encore plus de temps.
C'est combien la présence? C'est combien d'années? 4 ans?
C'est 4 ans.
4 ans, d'accord. Alors, justement, en plus, vous réunissez tous les professionnels et tous les amateurs. Tous ceux qui font honneur au sport à travers des actes de fair play. Tout est mélangé, c'est ça aussi qui est remarquable dans cette matinée.
Absolument, et on a même ouvert la porte depuis l'année passée à des tout jeunes qui n'ont pas la carrière derrière eux, mais qui ont fait un acte de fair-play remarquable. C'était une jeune fille qui avait 13 ans, qui lors d'une compétition avait aidé une jeune fille qui était malentendante, etc., pour lui dire ce qui se passait. Et puis à la fin de la compétition, la jeune fille handicapée n'avait pas gagné, bien sûr, et lui a remis sa médaille d'or. Voilà, des gestes symboliques forts. Et donc voilà, c'est aussi ça le fair play, c'est parler de ces beaux actes quotidiens qui sont souvent
ignorés. Parce qu'il y en a, hein, contrairement à ce qu'on pense, il y en a quand même dans le haut niveau. Hein,
absolument.
Alors, comment se fait le choix? Comment se fait la sélection, Jean-Pierre?
Alors, nous avons un jury qui est fait d'une dizaine de personnes. Et nous sollicitons l'ensemble des fédérations, des ligues, des comités, également des comités régionaux olympiques et sportifs, comités départementaux, et nous recevons un certain nombre de candidatures, par exemple pour l'édition 2020, qui malheureusement s'est pas déroulée en 2020 pour les raisons qu'on sait et qui se déroulera en 2021. Nous avons eu 38 candidatures, 38 belles candidatures, et donc nous identifions parmi ces candidatures ceux qui peuvent bénéficier du prix du fair play. Et donc nous allons avoir 17 candidats pour le prix du fair play cette année, qui seront honorés donc fin 2021. Voilà, donc c'est un jury qui essaie de faire en sorte qu'on ne récompense pas des personnes par leur image, par leur titre, etc., par tout ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont fait un acte de fair play, où ils ont une carrière tout à fait remarquable en termes de relations, de fair play, de défense des valeurs du sport? C'est ça qu'on récompense.
Bien sûr. Et vous êtes toujours d'accord entre vous d'une façon générale, et on les connaît quand, les lauréats? Alors, il y a la cérémonie au mois de novembre, mais dès le mois de septembre,
on les dévoile à peu près une semaine avant.
Ah oui.
Voilà, mais là nous avons déjà dévoilé, nous avons écrit à tous les récipiendaires qu'ils avaient été choisis par le jury, donc les récipiendaires le savent, mais le grand public ne connaît pas encore à ce jour les lauréats, mais ça sera fait bientôt, ça dépendra de la date qu'on aura retenue pour le fair play 2021.
Et les grands noms sportifs passés, comment vous arrivez, qu'est-ce qu'ils vous les proposent?
Alors,
parce qu'il y a des gens du passé aussi, qui sont plus sportifs.
Absolument.
Et puis qui sont récompensés. On se rappelle de Darrigade, par exemple.
André Darrigade,
il y a bien Juste Fontaine.
Juste Fontaine, effectivement. Donc ces gens-là, bien sûr, ils sont toujours présents parce que souvent ils sont l'objet d'un prix. Mais alors, ces grands champions, ils sont proposés par les fédérations.
Oui, d'accord.
Les fédérations directes nous posent, et nous sommes très très heureux de voir les noms qui nous sont proposés par les fédérations. L'année passée, Julien Alaphilippe était proposé par la Fédération de cyclisme, donc un grand champion. Oui. Il n'avait pas encore le maillot arc-en-ciel lorsque... Et donc il n'avait pas pu venir malheureusement à la remise des prix fin 2019, et c'est moi qui ai remis directement le trophée du
Paris-Nice,
fair play,
je crois.
Au départ du Paris-Nice, à Plaisir justement, pas loin d'ici, où j'ai pu remettre ce prix, qui était ravi parce qu'il n'avait jamais eu un prix aussi beau.
On a une belle photo avec vous, puis votre ami Claude Maignan aussi. Hein.
Claude Maignan, effectivement, qui aime bien le cyclisme. Et cette année, nous avons également quelqu'un d'important au niveau du Tour de France que l'on honorera, mais je ne dis pas, donne pas son nom aujourd'hui pour pas dévoiler un secret qui, j'espère, sera bien gardé.
Et puis, vous intervenez sur d'autres domaines aussi, sur d'autres dérives du sport. Vous êtes écouté quand même, cette association, le fair play?
On est écouté, mais nous ne sommes pas encore assez connus. C'est là que nous avons un travail de communication à faire. C'est la raison pour laquelle nous avons monté un club des anciens lauréats. Depuis 2000, on a une centaine de lauréats qui sont des anciens sportifs de haut niveau avec des grands noms évocateurs. Et donc l'objectif, c'est de fédérer ces grands noms, et donc d'avoir justement une chambre d'écho pour que ces grands noms, ils puissent être des ambassadeurs en fait du fair play, parce qu'ils ont des grandes valeurs, ils ont été élus, ils ont été honorés au fair play. Et donc l'idée, c'est de créer ce club. Il sera très certainement présidé par David Sandonin, qui fait partie de la commission des journalistes de l'Association française pour un sport sans violence, pour le fair play, qui travaille à France Télévisions. Il était d'ailleurs sur le Dakar ces derniers jours. Et donc voilà, on espère qu'avec le club des journalistes, on pourra mettre en avant aussi ce club des lauréats pour justement porter notre voix partout. Et avec ce club des journalistes que nous avons créé aussi, c'est rayonner sur toute la France avec la PQR, pour que derrière on puisse mettre en avant tous ces beaux champions, et puis les valeurs du fair play dont nous avons vraiment beaucoup besoin aujourd'hui dans ce contexte très difficile que nous traversons, avec les violences, avec la radicalisation.
Oui, c'est ça les plus gros dangers du sport actuellement.
Tout ce qu'on
entend maintenant,
je crois,
plus que le dopage, plus que la corruption.
On en parle plus, le dopage malheureusement continue d'exister, certainement, peut-être moins qu'avant, puisque les contrôles sont plus efficaces, si on arrive à voir des gens
aujourd'hui,
parce que les contrôles, c'est toujours la course entre les... ceux qui créent les produits et puis ceux qui essaient de les détecter. Mais ça prouve qu'on est de plus en plus efficace puisqu'on arrive à retrouver des personnes dopées dans les Jeux Olympiques 12 ans ou 16 ans après. Donc ça prouve qu'on a fait des progrès. Mais voilà, donc aujourd'hui je pense qu'effectivement le problème de violence reste marqué, même si les violences dans les stades, et pour les raisons que vous savez, voilà, 2020 il n'y en a pas eu puisqu'il n'y a pas de supporters, mais les violences sexuelles, on en a beaucoup parlé. On en parle encore beaucoup aujourd'hui.
Surtout que les langues se délient maintenant, hein, dans toutes les fédérations. Hein.
Personne n'a peur aujourd'hui. Et voilà, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de fédérations touchées qui ne le savaient même pas.
Oui. Voilà. Ou certains qui n'ont pas couvert, qui savaient qu'on peut vous en parler.
Peut-être. Non, ça peut arriver. Je sais pas dire. Je pense que les fédérations.
Parce qu'on en a parlé pour le patinage beaucoup. Hein.
Ouais. Mais je crois que c'est une co-responsabilité. On a souvent l'habitude de montrer du doigt les fédérations, mais tous ces cadres techniques. Ils sont les salariés du ministère des Sports, donc le ministère des Sports a aussi un rôle important à jouer pour détecter et puis identifier et faire ce qu'il faut au niveau de déclaration, au niveau du procureur, chaque fois qu'un doute existe. Mais les fédérations sont prises entre deux feux, entre dénoncer quelqu'un sans avoir la preuve et ensuite être attaqué pour dénonciation calomnieuse, ou préserver l'avenir en éliminant quelqu'un, en écartant quelqu'un alors qu'il n'est peut-être pas coupable. On a vraiment un sujet très sensible. Il faut qu'on aide les fédérations justement à trouver la bonne solution lorsqu'ils ont connaissance de quelque chose de ce genre.
Et puis des langues aussi qui se délient pour l'homophobie, la discrimination aussi maintenant.
C'est un sujet qui est en train de monter, hein, discrimination, homophobie. Et au travers de cette table ronde qu'on a organisée donc sur l'homophobie, on avait Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique sportif français, qui a fait un témoignage remarquable, Béatrice Barbus, secrétaire générale de la Fédération du handball, et qui s'occupe également des femmes et de la place des femmes dans la société. On avait Marie-Françoise Potreau, présidente de Femix. On avait Nathalie Constantini, présidente de l'UNSS, parce que ça commence là aussi, les dérives. Et puis on avait Brigitte Henriquez, vice-présidente de la Fédération Française de Foot, et qui est ma collègue au niveau du CNOSF. Voilà, donc tout du beau monde, beaucoup de femmes, mais je pense que c'est elles qui sont peut-être mieux à même d'en parler.
Et puis ça permet de ne pas oublier le sport handicapé. Hein.
Absolument.
C'est important, parce qu'il y aura des Jeux Olympiques et Paralympiques, faut pas oublier, en 2024.
Absolument, c'est aussi important. Et donc, voilà, nous aurons effectivement à Paris également une place forte avec les Jeux Paralympiques et avec France Télévisions, qui est donc la télévision qui va être autorisée à retransmettre ces Jeux. Et ils donnent beaucoup de place maintenant aux Jeux Paralympiques. On l'a vu à Londres, il y a eu un gros virage qui a été pris. Et les Jeux Paralympiques ont été suivis aussi fortement que les Jeux Paralympiques à Londres. Et j'espère qu'il en sera de même à Paris en 2024.
Oui, il y a bonne raison. Allez, la deuxième page de pub, on y va.
Brifo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet, votre partenaire pour les projets neufs ou de rénovation, petits ou gros œuvres. Bâti Pro France est votre spécialiste pour la réalisation de tous vos travaux, de maçonnerie générale, pavillon individuel, toiture, fenêtre, carrelage et l'installation de votre portail. Pour des réalisations de qualité qui bénéficient de la garantie décennale et forte d'une expérience de 20 ans, confiez-nous vos projets en toute sérénité. Vous avez un projet? Appelez Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet. Devis gratuit au 01 30 88 97 54 et sur bâtipro-france.com.
Vous recherchez la brillance absolue? L'horlogerie bijouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie bijouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
patience au repos. Pendant que le monde avance, tu trouves pas bien tes mots. T'hésites entre tout dire et un drôle de silence. T'as du mal à partir, alors tu joues l'innocence. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Dans ma tête, une musique vient plaquer ces images sur des rythmes d'Afrique, mais je vois pas le paysage. Toujours ces hommes qui courent, cette terre qui recule. Ces appels au secours, ces enfants qu'on bouscule. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux.
Région avec RVE.
Bonjour Pierre Mougin, c'est vrai qu'on va réélire bientôt un président du CNOSF. Pour l'instant, il y a Patrice Martin qui s'est déclaré candidat. Alors, il ne vient pas d'une discipline olympique, malheureusement. Est-ce que ça peut être un désavantage pour...
Oui.
Mais apparemment non, parce que vous, regardez...
Absolument, j'étais secrétaire général du CNOSF en tant que représentant d'une fédération olympique. C'est vrai que le 29 juin prochain, c'est un moment important. Une page du CNOSF va se tourner, puisque le président, comme on l'a dit tout à l'heure, ne sera pas rééligible par rapport à la limite d'âge, moi non plus, le trésorier non plus. Donc, Patrice Martin, effectivement, a été premier candidat déclaré. Emmanuel Oulage Bonnet, qui est la présidente de la FSGT, a déclaré sa candidature hier ou avant-hier, fédération donc affinitaire multisport. On parle de Michel Vion aussi, qui n'a pas encore confirmé ou pas sa candidature. Ça devrait être fait cette semaine. On a aussi entendu parler de Thierry Rey, qui à un moment donné avait émis le souhait. Voilà, donc des candidats qui tentent l'opération, pourquoi pas. Le choix sera forcément difficile. Patrice Martin, on le connaît bien, en particulier au niveau du fair play. Multiple champion du monde, le petit prince, en ski nautique. Manuel Oulage, on la connaît un peu moins. Michel Vion est très connu, président de la Fédération française de ski. La campagne va certainement démarrer très très vite maintenant.
Très bien. Merci Jean-Pierre. Juste 20 secondes pour parler donc de l'implication du sport sur le côté caritatif.
Oui, effectivement, j'ai la chance, en étant proche de Montlhéry, dont on a parlé tout à l'heure, d'être secrétaire général d'une association qui s'appelle l'association La Tomate contre la dystonie, qui consiste à faire rouler une soixantaine de cyclistes entre Montlhéry, ville de La Tomate, et Marmande, enfin plus exactement Périgueux. Et voilà, et donc nous sommes très heureux de doter chaque année l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle, d'une somme non négligeable pour aider à la recherche.
Merci Jean-Pierre, c'était le mot de fin. Merci pour votre participation, merci à Guillaume. On vous laisse maintenant avec le flash de 11h et la suite de nos programmes. Merci Jean-Pierre, bon dimanche.
RVE.
Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Des tests PCR pour les voyageurs européens qui veulent entrer en France. C'est la nouvelle mesure qui entre en vigueur aujourd'hui sur le territoire. Les travailleurs frontaliers et les personnes qui utilisent le transport terrestre en sont exemptés. Justice. Emmanuel Macron veut adapter notre droit pour punir les auteurs de violences sexuelles sur mineurs. Le président s'est exprimé hier sur Twitter. Une consultation doit démarrer demain à la chancellerie et devra déboucher rapidement sur des propositions. Emmanuel Macron a d'ores et déjà annoncé que deux rendez-vous de dépistage et de prévention contre ces violences seraient organisés en primaire et au collège. Leclerc est l'enseigne de grande distribution.